Jazz aux éclats sur RCN.
Alain Aubrège.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jazz aux éclats. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Claude Couturier. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour, plaisir partagé.
Jean-Claude Couturier qui n'est pas un inconnu à RCN, t'es même un ancien de RCN.
Ah oui, malheureusement je m'en suis un peu éloigné parce que j'ai une activité débordante. Voilà. Mais j'ai fait une émission pendant 5 ans, c'est là d'ailleurs que je t'ai connu.
Oui, oui.
Et je me disais, mais je voudrais avoir les connaissances encyclopédiques d'Alain.
Ah non, non, et, arrête.
Eh ben non, mais tu sais que c'est pas de la c'est pas pour te faire plaisir que je dis ça, d'autant qu'à l'époque, si tu t'en souviens, on avait dit, on se voyait de temps en temps, on avait dit tiens, il faudrait qu'un jour on fasse une émission ensemble.
Et voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années, on a eu le plaisir,
peut-être
tu reviens de temps
fait,
en temps mais... à RCN, où tu as animé pendant longtemps donc une émission de musique classique,
oui.
Et tu reviens de temps en temps, et à l'occasion d'une rencontre, on a enfin mis... Nous mettons enfin à exécution ce projet. Alors, vous l'avez deviné sans doute, on va consacrer cette émission à un sujet que j'aime bien aborder de temps en temps, c'est parce que ça me tient à cœur, c'est les liens plus ou moins ténus, plus ou moins forts, qui unissent le jazz et la musique classique. Alors, on va aborder ça, on peut pas épuiser le sujet en une heure, même en 10 heures. Mmh. On va l'aborder à l'aide de quelques exemples, quelques aspects de ces relations du jazz avec la musique classique. Alors, on va préciser, tu m'as dit que tu aimais le jazz, un certain jazz d'ailleurs, pas tout, mais tu es plutôt un homme du classique.
Oui, je suis un fondu de classique, je ne suis pas musicien, je ne prétends pas être un expert de la musique classique, mais elle berce ma vie depuis très longtemps. Mon premier disque, c'était un vinyle, et j'avais 14 ans, et c'était la symphonie inachevée de Schubert.
Ah oui, beau début.
Ouais, beau
oui.
Début.
Voilà. Bon, ouais. Mon premier disque à moi, c'était un vinyle aussi, évidemment. Mm. On est de la même génération. C'était Louis Armstrong 1929, le Hot Five.
Alors, tu parles de Louis Armstrong, on parlait tout à l'heure. Moi quand je pense jazz, c'est vrai, je pense Sidney Bechet, je pense à des gens comme ça. Et puis Claude Luther, puisque je te disais, je l'ai vu en représentation à Verdun, d'ailleurs.
Oui, il est venu à Nancy un certain nombre de fois, d'ailleurs, dans le temps. Oui, Claude Luther. Qui se souvient encore de Claude Luther Mais pourtant, moi, ça m'est déjà arrivé de le faire écouter.
C'est un clarinettiste.
Un clarinettiste. Alors, pour commencer, j'ai bâti un programme qui va nous permettre d'évoquer ça. Vous allez voir, un petit peu varié. Pour commencer, ça me fait plaisir d'écouter un morceau qui illustre bien justement ces liens qui unissent le classique et le jazz de différentes façons. Il s'agit d'une interprétation d'une des bacchanas brasileiras de Heitor Villa-Lobos. Alors Heitor Villa-Lobos, c'est un compositeur brésilien qui aimait beaucoup la France, hein, et qui a consacré un certain nombre... Il était très influent, il aimait beaucoup Jean-Sébastien Bach. Villa-Lobos, il était né en 1887, il est mort en 1959. Et il aimait beaucoup Jean-Sébastien Bach et il avait consacré un certain nombre de pièces à l'évocation brésilienne de Jean-Sébastien Bach, c'est d'où l'appellation Bachianas Brasileiras. Ouais. Et c'est déjà l'influence de Bach sur une autre musique. Et puis, en 1963, le Modern Jazz Quartet avec John Lewis et Milt Jackson, qui, eux aussi, vouaient une grande admiration à Jean-Sébastien Bach. John Lewis était très très influencé par la musique de Jean-Sébastien Bach. Eh bien, ils ont eu l'idée de donner une interprétation jazz cette fois-ci de la cinquième bacchanas brasileiras de Heitor Villa-Lobos, ce qui à l'origine était composé pour une voix de soprano avec un accompagnement de 8 violoncelles.
Oui, mais moi, je te le disais tout à l'heure, tu m'as fait faire des découvertes incroyables. Je te disais même, j'aurais bien aimé qu'on fasse ça il y a 5-6 ans, ça aurait changé un peu mon univers musical.
Oui, bah, il est encore temps, il est encore temps. Alors, on écoute le MJQ, le Modern Jazz Quartet, dans cette interprétation de Baquianas Brasileiras. Thank you. La bacchanale brasiliera numéro 5 de Héctor Villa-Lobos, le MJQ. Alors, j'ai vu que ça avait l'air de te plaire, Jean-Claude.
Ah oui, oui, tout
mais,
à fait.
Oui. Alors, j'ai choisi ça parce qu'on y retrouve le... Bon, Bach, c'est évident. Le jazz, le MJQ, c'est évident aussi. Et puis, il y a ce côté brésilien, sud-américain...
Sympathique.
Qui est, dont on connaît les liens entre... Il y a une espèce de triangle classique, jazz, musique brésilienne, qui est tout à fait remarquable. Alors en plus, ça avait derrière le Modern Jazz Quartet avait été beaucoup critiqué à l'époque parce qu'il se présentait comme un... Il se présentait vêtu, il se comportait comme un ensemble classique. On a dit... Tout le monde criait, les amateurs de jazz disant « qu'est-ce que c'est que ce déguisement ?» Et puis les amateurs de classique disaient « c'est les imposteurs !» Et c'est quand même si beau.
Ah oui, parce que les origines du jazz, c'était quand même plutôt des Trent Savate au début.
Oui, un petit peu, oui. Enfin bon, bah, des descendants d'esclaves, des Trent Savate. Le jazz, il est quand même né dans les champs de coton.
Absolument.
Les champs de coton et dans les bordels.
Oui.
Bon. Bon, alors, les musiciens classiques se sont rapidement intéressés, pour certains d'entre eux, aux musiques américaines et au jazz, même au jazz naissant. Alors, sans remonter jusqu'à Anton Dvorak, qui a séjourné aux États-Unis et qui est, bon, d'ailleurs, on connaît le quatuor américain, la symphonie du Nouveau Monde, dans lesquels il y a des traces de musique américaine de son époque. Et Dvorak disait, il avait écrit dans un article une fois, que pour lui, l'avenir de la musique moderne se trouvait là, aux États-Unis.
Ouais.
Donc, on ne parlait pas de jazz, bien entendu. Alors, il y a un autre musicien qui, lui aussi, a été impressionné à utiliser la musique des Amériques. C'est Claude Debussy. Alors, Claude Debussy n'a probablement jamais entendu de jazz.
Ouais. Hein,
mais il a entendu des musiciens qui venaient de là-bas. Et dans quelques exemples comme ça, il a entendu du ragtime, il a entendu des cakewalk, des musiques qui ont précédé le jazz. Et il en a écrit. Alors, par exemple, dans un recueil pour piano qui s'appelle Children's Corner,
que j'ai vu.
Il a écrit pour sa petite fille ce Gollywog's Cakewalk. Alors, Gollywog, c'était des poupées en chiffon à tête noire.
Oui. Hein.
Eh bien, il a écrit ça, qui est typiquement un ragtime. Hein. Et en voici une interprétation par un pianiste coréen, Seong-in Cho.
Oui, tu dis que c'est typique du ragtime, mais moi, ça ne m'a pas sauté aux yeux à l'époque.
Eh oui. Thank you. Gollywog's Cakewalk de Claude Debussy. Alors pour moi, je range ça aux côtés des compositions de Scott Joplin ou de General Morton. Mais c'est du Debussy. Hein.
Ouais.
Alors, les musiciens de jazz, très rapidement, ils ne sont pas trompés d'ailleurs, parce que beaucoup sont tombés en admiration devant Debussy. Et beaucoup ont été influencés par Debussy. Certains musiciens, quand on leur demandait quels étaient les musiciens qui les avaient influencés, beaucoup disaient, on a cité Bach, hein, mais beaucoup disaient Debussy. Et un des tout premiers à avoir été presque debussiste, c'est le trompettiste Bix Beiderbecke, qui a enregistré deux ou trois pièces pour piano de sa composition, et où on retrouve, alors là c'est plus Debussy qui fait du ragtime, c'est Bix Beiderbecke qui fait du Debussy. Hein. La composition a été enregistrée par lui-même au piano en 1927 à New York, s'appelle In a Mist, dans le brouillard. Mm-hmm. In a Mist. Dynamiste, Bix Beiderbecke, 1927, c'est intéressant, hein ?
Tout à fait. Et ça, moi, je le découvre, tu vois, je connaissais pas du tout.
J'en suis très heureux. Alors, il faut écouter Bix Beiderbecke, il était surtout cornettiste, et c'est un merveilleux cornettiste, il faut l'entendre. Mais il jouait du piano plutôt fort bien, et on sent quand même l'influence, hein. On va changer complètement de genre, de style, d'époque. Il paraît qu'un des pièces classiques qui sont le plus souvent citées dans la musique des musiciens de jazz depuis très très longtemps, c'est Carmen de Bizet.
Alors ça, tu m'as fait un plaisir énorme. Qui ne connaît pas Carmen de Bizet ?
Absolument, absolument.
C'est l'opéra, on dit que c'est l'opéra le plus joué au monde.
Voilà, et ben, alors, c'est probablement pour ça que de temps en temps, beaucoup de musiciens glissent dans leurs solos, dans leurs improvisations, deux ou trois notes, un petit clin d'œil à Carmen, ça doit venir tout naturellement.
Enfin, là, c'est un gros clin d'œil.
Ouais, hein. Alors, ça a donné l'idée, en 1959, au guitariste, l'excellent guitariste Barney Kessel, de consacrer tout un disque à la musique de Carmen, d'après Bizet. Alors, il joue pas la partition de Bizet, il joue d'après Bizet. Hein. Un disque qui a fait scandale, d'ailleurs, à son époque, parce que, encore une fois, les puristes...
Les intégristes,
disons-le carrément, ont hurlé au sacrilège. Mmh. Vous allez voir qu'il n'y a rien de sacrilège là-dedans. Barney Kessel réunit donc un orchestre sur la côte ouest, avec un certain nombre de musiciens de la côte ouest, musiciens en vue, en particulier un batteur dont je parle de temps en temps, c'est le batteur Shellyman. Et puis, il se trouve aussi que... clin d'œil aussi en direction de la musique classique qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien il y a un pianiste, on va pas beaucoup l'entendre dans le morceau, mais ça vaut la peine d'être dit, le pianiste n'est autre que André Prévin, célèbre chef d'orchestre symphonique et pianiste de jazz tout à fait méritant. Et c'est quand même amusant. Barney Kessel, eh bien on va écouter d'après Bizet, Swinging the Toreador. Thank you. Barney-Kessel, Carmen. Bon, je trouve ça très très réjouissant en fait.
Ah, hein.
Et puis finalement, quelle fidélité à la musique de Bizet. Je crois qu'ils se sont bien amusés.
Eh ben, je pense, mais en plus, on identifie bien sûr immédiatement le Carmen.
Oui.
Et moi, qui suis quand même un peu attaché aux formes classiques, j'ai trouvé que ça, c'était très très bien.
Jazz aux éclats sur RCN.
Allez, on va être un petit peu plus sérieux, encore que.
Ouais, mais on n'est pas au bout de nos surprises avec toi, hein, parce que ce qui suit...
Alors, ce qui suit... Bon, Chopin.
Bah, Chopin... On va voir après Ravel,
Chopin.
Forêt.
Alors, Chopin, il y a un certain nombre de musiciens de jazz qui se sont amusés à s'inspirer de Chopin plus ou moins fidèlement. Tout récemment, 2023, c'est un pianiste ukrainien qui vit en France, Dimitri Naïditch, pianiste classique, de formation classique, qui a beaucoup... qui est vraiment un pianiste... de solide formation, et puis il est passé au jazz. Il est passé au jazz, alors il a consacré un disque en particulier, je crois qu'il a joué un peu de Bach, puis il a consacré un disque à Beaux-Arts une fois, et puis son dernier album, c'est Chopin. Et bien, voici par exemple la valse à trois, c'est le titre qu'a donné Dimitri Naïditch, c'est d'après la valse numéro 2.
La valse nostalgique, c'est ça?
La valse numéro 2 en La majeure de Frédéric Chopin. Le pianiste Dimitri Naïditch est en compagnie du contrebassiste Gilles Naturel, Luc Bill Pérez Herrera à la batterie.
Avec un ensemble qui est digne du classique, hein. Moi j'ai vu ça.
Allez, on l'écoute.
Thank you.
La valse numéro 2 de Chopin, Dimitri Najdic. Ça te...
Convient ? Oui, oui, non, mais ça me parle, parce que c'est la première fois, je te le disais, pour moi, Chopin jazzy, c'était, je l'ignorais mais complètement.
Pour moi, je n'imaginais pas que ça pouvait se faire aussi facilement. C'est un très très beau morceau de jazz, mais c'est aussi, pour ce que je connais de Chopin, c'est parfaitement respectueux.
Ah oui, 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 bien sûr. Cette valse, ça devrait être très connue.
Hein. Bah oui, alors on la retrouve, on se plonge dedans de la même... Finalement, l'émotion est la même.
Oui, tout à fait. Ah, bah, oui. On le disait tout à l'heure, la musique, c'est de l'émotion.
Hein. Oui. Alors, on parlait de Debussy tout à l'heure. Je disais que très rapidement, au début du XXe siècle, il y a des compositeurs qui se sont intéressés au jazz. Un des premiers compositeurs à s'intéresser au jazz, vraiment, ça a été Maurice Ravel.
C'est marrant.
Alors, Maurice Ravel, qui a entendu du jazz en France, enfin, en tout cas, le jazz qui parvenait jusqu'à la France, et puis qui a voyagé aux États-Unis, où on imagine qu'il a eu l'occasion d'entendre du jazz là-bas. Et bon, ça se sent dans un certain nombre de ses compositions, en particulier dans ses concertos pour piano, le concerto en sol, où il y a des passages qui sont carrément du jazz, ou presque. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, à ma connaissance, je ne connais pas de jazzman qui soit attaqué à ses œuvres de Ravel ou concerto. Ça pourrait venir. En tout cas, on trouve traces de jazz et de blues dans une composition de Maurice Ravel de 1927, qu'il a intitulée d'ailleurs lui-même Blues. Hein, ouais, on ne peut pas être plus clair. Oui. Une composition pour piano et violon, on va l'écouter, ce blues de Maurice Ravel par Janine Janssen au violon et Itamar Golan au piano. Ce ne sont pas des musiciens de jazz.
Hein. Mais c'est une très belle interprétation, notamment au piano, et vraiment c'est magnifique. Hein.
Oui. Allez, le blues de Ravel. Thank you. c'est le blues de Maurice Ravel. Hein. Bon, alors c'est pas du jazz, mais on sent vraiment l'inspiration qui est assumée par Ravel. Allez, encore un autre compositeur, musicien, que je crois que tu aimes beaucoup, Gabriel Fauré, dont on célèbre d'ailleurs actuellement le 100e anniversaire de la mort.
Hein. Ah, Fauré, pour moi, c'est un grand parmi les grands. Bien sûr, moi, ce que je connais, alors, encore une fois, c'est du classique, c'est son Requiem, qui est fantastique.
Qui est magnifique.
Hein. Voilà. Autant, moi, j'aime toujours le Requiem de Mozart, autant celui de Fauré est très différent, et il est vraiment d'une facture absolument incroyable.
Oui.
Alors, c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas du tout, à avoir du Gabriel Fauré quand tu m'as parlé d'une émission commune sur la musique classique et le jazz.
Eh oui, surprise. Alors c'est une surprise pour beaucoup de monde. Fauré, il est mort donc en 1924. Il a peut-être entendu du jazz. J'ai aucune idée de ce qu'il en pensait ou de ce qu'il a pu en penser. Eh bien, c'est le pianiste italien Enrico Piranonzi, pianiste, un très très grand pianiste qui nous a déjà donné de magnifiques disques de piano en solo ou en trio, qui a une culture classique importante et qui en particulier il y a un très très bel enregistrement de Piranonzi jouant Scarlatti et au piano en solo. Eh bien, il vient de sortir tout récemment un disque en compagnie du contrebassiste Diego Imbert avec André Ceccarelli à la batterie. Ça a été enregistré il y a quelques mois, consacré à Gabriel Fauré. Alors, il a intitulé ce disque Forever. En un seul mot, hein, faut rêver ou Forever, c'est comme on veut. Moi, je trouve que c'est un très très beau titre. Ouais. Et voici ce qu'il a fait d'une œuvre de Fauré, la Dolly Suite, c'est l'opus 56 de Gabriel Fauré, qu'il a intitulé Bonjour Dolly. C'est pas Hello Dolly, hein, c'est ouais. Bonjour Dolly.
Thank you.
Forêt par Enrico Pieranunzi. Alors on est loin du Requiem. Hein.
Ah oui. Oui.
Mais
oui.
Ben, l'émotion est là aussi.
Mais hein. Oui, absolument. Oui,
l'émotion est là aussi.
Oui, tout à fait.
Très 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 bel album en tout cas.
Jazz aux éclats sur RCN.
Allez, on poursuit. Bon, ben alors il y a... On pourrait citer des tas de compositeurs américains, européens. Il y en a un qui est quand même un petit peu aimé des musiciens de jazz et qui aimait le jazz. C'est Leonard Bernstein.
Oui.
Leonard Bernstein, il jouait pas de jazz, je crois pas, mais il éprouvait un certain intérêt pour le jazz. Et puis, bon, effectivement, il y a un certain nombre de pièces de Bernstein qui se prêtent, en particulier tout ce qui vient de West Side Story. Alors, j'ai choisi d'écouter, qu'on écoute de West Side Story, une interprétation qui mêle un côté jazz et puis un côté classique. C'est celle qu'a donnée la soprano Nathalie Dessay en 2016. Alors, elle est accompagnée par le Paris Mozart Orchestra, dirigé par Claire Gibault, et puis Pierre Boussaguet à la contrebasse, François Lézot à la batterie. Les arrangements, il faut le signaler, sont dus au pianiste Baptiste Trottignon, grand pianiste de jazz. Et bien, voici ce que ça donne quand elle chante un extrait de West Side Story, qui a d'ailleurs été chanté en particulier par Sarah Vaughan, par exemple.
Magnifique.
I Feel Pretty. Voici Nathalie Dessay chantant I Feel Pretty.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. And I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy. Give me its key. A committee should be organized to honor me. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine and so pretty. Miss America can just resign. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy, by a pretty, wonderful boy.
quoi de mieux que cet éclat de rire de Nathalie Dessé pour terminer cette heure passée ensemble, Jean-Claude?
Alain, je t'en remercie, je l'ai déjà dit, mais j'ai passé un grand moment.
Ouais. Bah écoute, heureux de t'avoir fait plaisir, et puis bah, j'espère que ça a plu à nos auditeurs aussi. Alors, j'avais prévu toutes sortes d'autres choses à te faire entendre, ça sera pour une autre fois, bien entendu. En tout cas, on a passé un bon moment.
Bah, ça sera avec plaisir si on renouvelle l'opération.
Nous la renouvellerons, c'est entendu. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, à Jazz aux éclats. Merci à Jean-Luc à la technique. Nous nous retrouverons, bien sûr, vendredi prochain à 20h. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine. Au revoir et à bientôt. Au revoir, Jean-Luc.